en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Anne Muratori-Philippe.
Bonjour. Pour ce nouveau numéro d'Habit vert, je reçois Jean-Marie Rouard, membre de l'Académie française depuis le 18 décembre 1997. À 54 ans, à l'époque, vous étiez le Benjamin des immortels. En succédant à l'historien médiéviste Georges Duby, décédé le 3 décembre 1996, vous preniez place au 26e fauteuil qui fut à l'origine celui d'Amable de Bourzé, abbé de Saint-Martin-de-Corps. Né en 1943, romancier, essayiste, journaliste au Figaro, au Quotidien de Paris, aujourd'hui à Paris Match, vous avez dirigé le Figaro littéraire pendant 18 ans, tout en menant parallèlement une œuvre littéraire brillante. La peinture d'une société, l'analyse de microcosmes, sorte de huis clos où l'on croise aussi bien des Rastignacs de la politique, des personnages suicidaires, que des héros mal aimés, voués à l'échec, sont pour vous les révélateurs d'une civilisation en crise. Et je pense là notamment au goût du malheur. Que de chemin parcouru depuis votre premier roman, La fuite en Pologne, paru en 1974. Depuis, il y a eu notamment Les feux du pouvoir, couronné par le prix Interallié en 1977, Avant-guerre, qui reçoit le prix Renaudot en 1983, mais aussi Ils ont choisi la nuit, Le cavalier blessé, dont le héros est un lointain ancêtre entraîné dans les tumultes de l'épopée napoléonienne, ou encore Le voleur de jeunesse sur l'impuissance sexuelle, Nous ne savons pas aimer, un récit plein de repentir, nostalgique, et tout récemment, Le scandale, un roman qui a pour cadre une petite ville du sud des États-Unis pendant les années 30, où se passe un horrible fait divers sur fond de ségrégation raciale. On retrouve dans ce roman les thèmes qui vous sont chers. La passion amoureuse, la justice, la prostitution, l'hypocrisie sociale et le fanatisme moralisateur. Autre facette de l'écrivain, vous avez été aussi biographe, biographe notamment du duc de Morny et du cardinal de Bernice. Et surtout, vous n'avez pas hésité à brandir le stylo de l'enquêteur pour prendre la défense d'Omar Radad, le jardinier marocain, accusé d'avoir assassiné sa patronne, dans Omar, la construction d'un coupable. Enfin, l'âge venant, vous vous êtes tourné vers votre famille, cherchant à renouer les fils d'une longue histoire que, pendant des années, vous avez feint d'ignorer, peut-être hanté par l'angoisse de n'être rien, de ne pas exister. Et pourtant, lors de votre réception sous la coupole, Hélène Carrère d'Encausse vous l'a dit, vous avez eu la chance de naître dans une famille étonnante. Aussi loin que l'on scrute votre arbre généalogique, c'est au génie que l'on se heurte. On y était peintre de père en fils, ou encore de mère en fille, comme en d'autres familles ont été notaires ou pâtissiers. Et quel peintre ! Berthe Morisot domine votre lignée. Autour du couple, quelle forme avec Eugène Manet ! C'est toute l'école impressionniste qui va se rassembler. Et c'est de cette famille dont vous allez nous parler, Jean-Marie Rouard, aujourd'hui, à travers les ouvrages que vous lui avez consacrés, et aussi, peut-être, en souvenir de l'hommage que vous avez rendu à votre père, un tendre hommage, puisque vous avez organisé pour lui une rétrospective de son œuvre picturale au musée des années 30, il y a quelques mois. Alors Jean-Marie Rouard, je pense que vous allez nous promener dans cette grande saga qu'est votre famille, et j'aurais aimé savoir, puisque Hélène Carrère d'Encausse dit que toute la famille Rouard vivait... s'occuper de peinture, parler de peinture, ne vivait que pour la peinture. Quel a été le premier ancêtre qui s'est occupé de peinture dans la famille Rouard ?
Alors c'est vrai que c'est mystérieux, cette naissance à l'art. Eh bien, je peux dire que c'est sans doute mon arrière-grand-père qui petit Henri Roy qui, tout en préparant Polytechnique, eh bien, était l'élève de Corot et de Millet. Il hésitait peut-être entre les deux et finalement il a opté pour Polytechnique, pour une carrière de scientifique, industriel, puisqu'il a inventé certains procédés de fer creux, notamment le petit bleu, vous savez, c'est ce moyen d'émission des lettres et des procédés un peu compliqués de réfrigération, notamment la morgue de Paris, enfin, ce qui lui a permis de faire une assez grande fortune et finalement, vers 50 ans, de se consacrer à sa passion qui était sa vraie passion, en dehors de l'industrie et de l'invention, qui était la peinture. Et il avait été, curieusement, le condisciple de Degas. Ils étaient au même lycée, mais ils se sont retrouvés pendant le siège de Paris, et ils sont devenus absolument inséparables, au point que Degas disait « Les Roirs sont ma famille en France ». Alors, avec Degas, ils vont participer au mouvement impressionniste, puisque... Donc, Henri Roir, qui peint, qui collectionne, va exposer avec les impressionnistes jusqu'en, je crois, en 95. Et donc, il va consacrer sa vie à la fois à ses collections de peinture et à la peinture elle-même. Donc, c'est lui qui a été qui est le premier à contracter le virus, mais son épouse, Hélène Jacob de Malter, appartenait, elle, alors, à la famille des ébénistes de Napoléon.
De l'épopée napoléonienne.
Voilà. Et ensuite, alors, bizarrement, ses enfants, un peu d'ailleurs à l'instigation de Degas, ses enfants vont faire des mariages dans le milieu de l'impressionnisme. C'est ainsi que un des fils d'Henri Roy, Ernest, également peintre, qui était l'élève de Degas, va épouser Julie Manet, donc la fille de Berthe Morisot et la nièce de Manet. Ce sera une première. Alors là, ça fait déjà, on va cumuler les peintres, parce que Julie est peintre, Berthe Morisot, bien entendu, est peintre, Manet, n'en parlons pas. Eugène Manet, le mari de Berthe Morisot, peint également un petit peu. Donc c'est vrai que ça va accroître le nombre des peintres. Et la cousine germaine de Julie, Paul Gobillard peint également. Et ensuite, deux autres garçons d'Henri Roir, toujours à l'instigation de Degas, vont épouser les filles du peintre Henri Lerolle. Henri Lerolle, qui était un peintre beaucoup plus officiel, c'était un peintre plus, disons, je ne sais pas pour dire plus académique, mais en tout cas, ce n'était pas un impressionniste. Et donc, était un ami également de Degas, et aussi un ami de Renoir, puisque Renoir a fait plusieurs portraits de lui, et il a fait plusieurs portraits de ses filles, notamment les jeunes filles au piano. Et donc, ces deux mariages entre Louis, mon grand-père, et Eugène, qui est connu pour être le dédicataire du Palud de Gide, eh bien, ces deux couples, voilà, vont montrer, au fond, cette espèce de prolongement de la famille, toujours dans le milieu artistique. Alors, je ne sais pas si sur le plan artistique, c'est peut-être une réussite. Sur le plan, disons, conjugal, je ne sais pas. Il paraît que ça ne marchait pas très bien. Et d'ailleurs, très souvent, on allait dire à Degas, écoutez, est-ce que vous êtes vraiment satisfait des mariages que vous avez organisés? Et ils passent leur temps en dispute, et Degas disait, oh, vous savez, avec leurs caractères respectifs, ça aurait fait deux divorces.
Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Marie Rouard, académicien français qui est titulaire du 26e fauteuil, et qui nous raconte aujourd'hui l'histoire de sa famille, les Rouards et les Lerolle, qui sont tous été dans le sillage des impressionnistes. Là, nous avons évoqué Henri Rouard. Mais Henri Rouard, n'était-il pas aussi un grand collectionneur?
Oui, c'est une partie de sa passion, au fond. Ça a été la peinture, comme peintre et comme admirateur des grands peintres. Et c'est vrai, il a réalisé une collection assez fabuleuse, puisque ça va être, quand elle sera vendue à sa mort en 1912, ça va être la première grande vente de l'impressionnisme, la première grande vente de Degas, puisque il y avait là notamment la vente du fameux tableau de Degas, Les danseuses à la barre. Et d'ailleurs, Degas y assistait, et vous savez, il a été vendu à un prix astronomique. Je crois que c'est 500 000 francs or. Et les journalistes sont approchés de Degas. Ils ont dit, alors maître, vous êtes heureux? Et Degas a dit, je pense que celui qui a peint ce tableau n'est pas un imbécile, mais que celui qui l'a acheté ce prix-là est un con. C'est tout à fait l'état d'esprit de Degas. Et c'est vrai qu'il y avait, dans cette collection, il y avait 47 coraux, il y avait beaucoup de daumiers, il y avait beaucoup de Millet également, mais également des Velasquez. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des tableaux modernes de l'époque et aussi des tableaux beaucoup plus anciens, des Goya, des Velasquez. C'était un amateur très éclectique.
Donc Degas jouait un très grand rôle auprès d'Henri Roy. Et quel était son caractère? Comment était-il Degas?
Alors Degas, d'ailleurs moi j'entendais prononcer son nom par Julie, qui avait été, par mon grand-père, qui avait tous les deux très, très bien connus. Et Julie prononçait Degas. C'était sans doute à l'italienne. Monsieur Degas, elle l'appelait. Et Julie, évidemment, avait été très favorisée, puisque à la mort de son père, enfin favorisée, non, puisque ses parents étaient morts, mais elle a eu comme tuteur à la mort de son père Renoir, puis à la mort de sa mère Mallarmé. Ce qui fait qu'il y avait ce mélange à la fois de littérature, de peinture, un mélange artistique un peu assez étonnant, c'est vrai, et qui m'éblouissait. Moi, quand j'avais 18 ans, c'est vrai que j'interrogeais cette tante Julie, qui était une vieille dame, et que je voyais souvent avec sa cousine, qui était Janie, la femme de Valérie. Elles avaient vécu toute leur vie ensemble, et elles évoquaient donc, bien sûr, tout le personnage de Renoir et le personnage de Degas, qui était un peu le personnage, disons, fort, un peu atrabilaire, mauvais caractère. Et Julie racontait notamment la fameuse lecture du discours de Mallarmé sur Villiers d'Isle-Adam, qui avait eu lieu chez elle, d'ailleurs dans l'atelier de Berthe Morisot, et comment Degas s'était énervé en disant « j'en ai soupé les poètes, j'étais parti ». Donc, c'est vrai qu'il y avait entre Mallarmé et Degas, à la fois beaucoup d'amitié, parce qu'ils s'entendaient très bien, mais disons, par certains aspects, Degas était un homme positif et la poésie de Mallarmé n'était pas forcément sa tasse de thé. Mais c'était un personnage à la fois difficile, génial bien entendu, c'est un peintre immense, mais un caractère et une fin de vie extrêmement austère, solitaire. Après la mort de cet arrière-grand-père, donc l'arrière-grand-père Henri Roy, qui était un peu sa famille, enfin bon, et c'est vrai qu'après il a un peu sombré dans la solitude.
Dans votre livre, vous évoquez la propriété de votre tante Julie, le Ménil, où vous allez en vacances. Et vous dormez dans la chambre de Paul Valéry. Et là aussi, est-ce que vous pouvez nous évoquer Paul Valéry dans cet univers?
Oui, alors parce que les liens entre Paul Valéry, donc, a épousé Janie Gobillard, la cousine germaine de Julie, les liens étaient très très grands, puisqu'ils habitaient au même endroit, rue de Villejuste, dans le 16e arrondissement, qui maintenant est devenu la rue Paul Valéry. Et Julie habitait au 4e étage et Valérie et Janie au 3e étage. Et donc, les parents se voyaient, les enfants se voyaient, et c'était une... Et très souvent, quand le couple Ernest Roire avait un dîner, c'était Valérie qui gardait les enfants, puis ensuite c'était l'inverse. Donc tous mes oncles me racontaient des souvenirs, d'ailleurs tout à fait émerveillés, souvenirs avec Paul Valéry qui adorait les enfants, qui s'en occupait beaucoup, qui leur faisait des dessins, leur racontait des histoires, enfin... C'est vrai que le personnage de Valéry, qui est resté dans la mémoire familiale, était évidemment très éloigné de ce personnage un peu austère qu'on voit sur les photos prenant la pose, la tête dans ses mains, ou professeur au Collège de France. Et c'est un personnage très gai, très, très amusant, avec beaucoup d'esprit et de vivacité, c'est certain. Et puis ensuite, alors, donc, pour les vacances, ils allaient dans cette propriété près de Melan, qui s'appelait Le Ménil, qui était un château mansard et qui avait été d'ailleurs acheté par Berthe Morisot sur le conseil de Mallarmé, et que Berthe Morisot a très peu habité. Et ensuite, c'est sa fille, c'est Julie et ses trois enfants, puis toutes les Valérie et tous les arrêts, petits-enfants. Et c'est vrai que j'ai passé là-bas beaucoup de temps dans les souvenirs. Alors, il y avait des assiettes qui avaient été peintes par Paul Valéry, il y avait la chambre de Paul Valéry où j'allais dormir près des marronniers. C'était très émouvant pour moi de me dire que ces lieux étaient habités. Mais il ne faudrait pas avoir une idée, si vous voulez, d'une sorte de sacralisation de l'art. Dans cette famille, il y avait justement c'était son côté très sympathique. Et c'est pourquoi j'ai eu du plaisir à l'évoquer dans mon livre « Une jeunesse à l'ombre de la lumière ». C'est qu'il n'y avait pas de caractère ni compassé, ni c'était pas du tout cérémonieux comme attitude. C'était le respect, donc, de la part de Julie, des grands hommes qui avaient entouré son berceau, notamment de sa mère. Il y avait une passion extraordinaire pour sa mère. Mais, c'était très bon enfant, et nous-mêmes, enfants, on jouait, on tirait la carabine à plomb au milieu des manets, au milieu des deux gars, et on envoyait des fléchettes. Et je me souviens que on acceptait au fond la vie, les enfants, l'art n'était pas ni, alors absolument pas, une valeur marchande, jamais d'évoquer la valeur des tableaux, c'était pas du tout le problème. Mais il y avait quelque chose qui m'a toujours laissé nostalgique. C'est cet accord mystérieux, au fond, entre une famille bourgeoise avec tout l'art de vivre bourgeois, et en même temps, cette présence un peu sauvage et de l'art qui était là sur les murs. C'était extraordinaire de voir autant d'œuvres réunies. Mais en même temps, dans le raffinement artistique, c'était pas du tout la bohème de Montparnasse avec les gens qui traînent la savate, qui crèvent la faim. Non, pas du tout, c'était le raffinement de la bourgeoisie et en même temps le super raffinement de l'art.
Alors il y a un autre personnage, Jean-Marie Rouard, que vous avez connu, qui joue un rôle important, c'est Louis Rouard, votre grand-père. Lui aussi, c'est une autre personnalité, c'est un homme assez fascinant. Le portrait que vous dressez de lui, le lecteur est fasciné par ce personnage.
Ah oui, alors c'est certainement, celui qui a eu le plus d'influence, mais une influence en creux. Parce que le problème de Louis Rouard, qui donc a été un peu le préféré, je crois, des enfants par Degas. Degas avait pour lui beaucoup de tendresse, ce qui était bizarre d'ailleurs chez lui. Et il a une vie évidemment assez étrange parce que très ami à l'origine, il était en classe avec Léon Pelfargue, il était très ami de Gide, ensuite il est devenu très ami de Valérie dès que Valérie est rentrée dans la famille, et ami de Claudel, dont il a publié Le chemin de croix dans sa librairie de l'art catholique, ami de Maritain, dont il a publié Frontières de la poésie, Arrêt scolastique. Et étrangement, il y avait chez lui une violence, une sorte de mal-être qui venait de sa difficulté à écrire et au fond de l'impossibilité à se réaliser comme écrivain. Alors il avait trouvé le canal de dérivation de l'édition. Il avait publié quelques petits ouvrages assez minces, notamment un livre sur Berthe Morisot et un autre sur son frère. Mais au fond, j'ai senti en lui une sorte de frustration de voir que tous ses amis écrivains s'étaient réalisés et que lui-même était resté sur le bord de la rive avec une formidable envie d'exister littérairement et ce qu'il faut bien appeler une sorte d'impuissance à écrire. Et certainement, ce grand-père a joué un rôle dans la mesure où j'ai peut-être réalisé, moi, l'œuvre, disons, en tout cas, j'ai écrit les livres qu'il avait envie d'écrire.
Qu'il aurait aimé écrire.
Peut-être, je ne sais pas s'il aurait aimé les écrire, en tout cas, j'ai eu cette vie d'écrivain dont il rêvait, qu'il avait aimé, et qui peut-être, s'il avait pu la réaliser, lui aurait ôté beaucoup de souffrance. Parce que, vous savez, écrire, c'est s'engager dans une voie qui n'est pas facile tous les jours. Mais il y a pire, il y a vouloir écrire et ne pas écrire, qui fait qu'on a à la fois les souffrances, mais on n'en a aucune des joies. Donc c'est vrai, ce personnage que j'ai décrit dans Une jeunesse à l'ombre de la lumière, qui était à la fois violent, qui était compliqué, qui était toujours en train de faire des scènes, qui avait à la fois une très grande générosité, il était très fastueux, très généreux, il dilapidait allègrement la fortune qu'il avait héritée de son père, plus la dot de sa femme. Enfin bon, c'était un personnage un peu de Don Juan, dragueur, et en même temps malheureux, et qui était très séduisant et très éprouvant pour ses enfants.
Il a été grand voyageur.
Il a pas mal voyagé. Il a été à l'Institut d'Égypte en 1900, et il a été passionné par le monde arabe. Et c'est un homme de dispersion, c'est un homme qui a aimé un peu tout, la littérature, les femmes, l'Italie, les voyages, les beaux-arts, et voilà. Et en même temps, je vous dis, c'est un chemin d'homme malheureux qui n'a pas pu s'exprimer. Voilà, ça a toujours été mon angoisse. Je crois que ce qui est important, c'est quoi qu'on fasse, en bien, en mal. Mais en tout cas, l'important, c'est de pouvoir arriver à l'expression. Voilà, et c'est certainement de son exemple que m'est venu ce désir, en tout cas, de m'exprimer. Voilà, de m'exprimer et de tenter de suivre mon chemin, un chemin très en dehors de la voie familiale qui était donc consacrée à la peinture. Et d'ailleurs, on m'a souvent posé la question, mais on me dit quand même avec des gens aussi exceptionnels dans la famille, Manet, Berthe Morisot, est-ce que ça a pesé sur vous? Et je dirais non. Non, ça n'a pas pesé parce que d'abord, ce n'était pas du tout, on ne vivait pas dans la référence écrasante des ancêtres, dans la famille. Chacun considérait qu'il avait son rôle à jouer et je trouve que c'est très sain. Et moi-même, j'ai toujours considéré que ce qui me définissait, c'était pas d'appartenir à telle ou telle famille, mais c'était ce que je ferais de ma vie. Voilà, ce que je ferais de ma vie et ce que j'ai tenté d'en faire. C'était ça le point essentiel. Et se retrancher derrière sa famille, ça n'a au fond pour moi pas beaucoup d'intérêt. Ce qui fait que je suis arrivé assez tard au fond à parler de ma famille jusqu'à, vous voyez, c'est-à-dire que ça a correspondu à peu près à mon entrée à l'académie. Donc ça va correspondre à une crise de vieillissement subite. Et donc, c'est, vous voyez, c'est vers 56 ans, 55 ans, que j'ai éprouvé le besoin de raconter cette histoire, parce que je la trouvais, au fond, très romanesque.
Nous observons une nouvelle pause et nous reprenons le cours de l'émission dans quelques minutes. Louis Rouard a beaucoup pesé sur votre père, Augustin. Comment se sont passées les relations entre le père et le fils?
Alors très mal, très mal. Mais en même temps, si vous voulez, au fond, il y avait à la fois une tradition donc, de peinture, d'amour de la peinture, ça c'est le côté positif de leur relation, puisqu'au fond, Louis, le fils d'Henri Roire, donc passionné de peinture, a continué dans cette passion. Et mon père a prolongé comme peintre cette passion de la peinture, mais c'est vrai que les deux personnalités étaient très, très opposées et il y avait beaucoup de violence entre eux. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les raisons pour lesquelles Louis Roire, mon grand-père, était mal dans sa peau, malheureux, et par voie de conséquence, un père à la fois qui agissait par saccades, qui avait des mouvements de générosité, des élans, et puis subitement des colères, tenait à sa frustration en tant que sur son absence de réalisation personnelle. Il avait un tempérament de feu, et en même temps, ce feu, il n'a pas su le canaliser vers une œuvre. Et il a eu beaucoup de mal, au fond, à voir un de ses fils se consacrer à la peinture, cette peinture qui était ça aussi, sa passion. Et à la fois, il a voulu l'encourager, le freiner. Enfin, il y avait quelque chose, une sorte de guerre de succession un peu étrange. Et il est certain que mon père en a beaucoup souffert. C'était quelqu'un de très douloureux, de très inquiet, de très insatisfait, qui poursuivait, comme tous les artistes, une chimère qui était d'atteindre un but mystérieux dans sa peinture. Et je dois dire, s'il l'a sans doute atteint, en tout cas, il a atteint une certaine perfection dans son œuvre de peintre, dans sa vie, ça a été un homme très, très insatisfait, très douloureux, très inquiet jusqu'à son dernier jour. Un des frères de mon père, Philippe, a également commencé une carrière de peintre et de céramiste. Il a donc, vous voyez, ça multiplie le nombre de peintres de la famille, ce qui fait que c'est vrai qu'on a pu, quand on a fait l'exposition au Musée de la vie romantique, montrer un peu toute cette espèce de, sous des avatars différents, tous les aspects de cette passion pour la peinture qui a été partagée pendant trois générations. Un peu comme il y a des familles de musiciens, d'ébénistes, de luthiers. Voilà, c'est une famille qui s'est consacrée à la peinture.
Votre père était aussi très proche de son frère Philippe et ils se voyaient beaucoup, ils s'écrivaient beaucoup et ils évoquaient ensemble les techniques de peinture. Et en fait, quel est celui qui est conseillé le plus ? C'était Augustin ou c'était Philippe ?
Alors je crois que les deux étaient... C'est vrai, on a beaucoup réfléchi sur ce qui est normal d'ailleurs chez les peintres, sur les techniques, et ils s'influençaient l'un l'autre, enfin... Mais il est certain que mon père avait peut-être, de ce point de vue-là, puisque très vite, son frère s'est dirigé vers la céramique. Et en matière de peinture, c'était finalement, mon père était le frère cadet, mais c'était plutôt lui qui inspirait son frère. Enfin voilà, c'était plutôt lui qui le conseillait. Il y avait une sorte de, entre eux, d'accord sur le fait que l'un avait consacré complètement sa vie à la peinture et avait peut-être réussi à... d'une certaine façon, à s'y épanouir, à trouver son ton, même si on a pu dire qu'il était un peu en désaccord entre à la fois, c'est un peintre classique, c'est un peintre directement influencé d'Holbein et les primitifs, et en même temps, il a vécu dans les années 30 et il a éprouvé les sentiments, Il a vécu dans l'art des années 30, donc il y a cette espèce de distorsion qui est assez intéressante d'ailleurs chez lui, qui fait qu'il est à la fois moderne et un homme très attiré par le passé.
Il y a qui a joué un rôle très important dans votre famille, c'est Noirmoutier.
Oui, l'île de Noirmoutier. Alors, c'est assez étonnant parce qu'au fond, il y a beaucoup de peintres sont passés à Noirmoutier. Il y a Monet qui allait voir Octave Mirbeau. Et mon père a acheté une maison dans les années 30 à Noirmoutier, une maison près de la plage. Et c'est à la fois un endroit où il était très inspiré par le cadre de Noirmoutier, parce qu'il y a un ciel absolument formidable, mais il y a une lumière extraordinaire. Et c'est certainement ce qu'il avait décidé, puisque chez lui, tout passait par la peinture. Il n'y avait pas de choix qui était directement relié à son désir de peindre. Et c'est vrai qu'on retrouve dans le ciel de Noirmoutier un peu le ciel qu'on voit dans les paysages des peintres hollandais. Il y a Puis ensuite, il y a eu des malheurs de la guerre, puisque la maison a été détruite par les Allemands en 1942. Et Noirmoutier, qui était à la fois une source de bonheur sur le plan artistique, a été certainement source de beaucoup de souffrance à cause de ces problèmes matériels créés par la destruction de cette maison.
Justement, j'aurais aimé que vous nous racontiez un petit peu comment votre père, qui avait un profond mépris pour l'argent, comment faisait-il pour gagner sa vie ?
Eh bien, justement, il ne la gagnait pas. C'était son problème. Il avait beaucoup de difficultés. Et parce qu'il vivotait, il était à la fois... C'était assez curieux parce qu'il était dans une famille de grands bourgeois... où il y avait des Manet sur les murs, des Corot, des Degas, et lui-même vivotait avec des petits boulots, il essayait droite à gauche de vendre sa peinture ou de faire des travaux liés à la peinture. Et certainement, ça a été une des causes d'une sorte de désarroi, parce que quand on est père de famille, avec trois enfants, c'est vrai que c'est une situation difficile. Et ça m'a beaucoup influencé, parce que j'ai essayé, vous voyez, au fond, le défi par rapport à mon grand-père, ça a été de m'exprimer, d'écrire, alors que mon grand-père ne s'était pas exprimé. Et le défi par rapport à mon père, ça a été certainement de vouloir être un artiste, de continuer dans la voie de l'art, moi ayant choisi la littérature, mais en même temps de ne pas, si vous voulez, être perpétuellement en but aux problèmes matériels. Et moi, j'ai résolu ce problème du second métier, voilà, en étant journaliste. Et je suis arrivé au journalisme un peu par hasard, très jeune, vers l'âge de 22 ans. Et j'ai trouvé, au fond, dans cette forme d'écriture, mais c'est pas l'écriture qui est essentielle dans le journalisme, c'est plutôt la curiosité, c'est plutôt une façon d'être, une façon de s'adapter aux événements. Eh bien, j'ai trouvé beaucoup de passion à être journaliste, et j'ai pu ainsi allier les deux choses que je voulais allier, c'est-à-dire intégrer la société, avoir un métier qui vous permet de ne pas être en permanence dans les aléas et les rentrées d'argent difficiles, enfin, toute cette insécurité qui, je dois dire, avait un petit peu pesé sur mon enfance et que j'avais trouvé difficile.
Merci Jean-Marie Rouard d'avoir voulu évoquer tous ces personnages hauts en couleur, les uns de votre famille, les autres que vos ancêtres ont côtoyé, que ce soit Mallarmé, Gide, qu'on aurait pu aussi évoquer. Vous siégez sur le 26e fauteuil à l'Académie française et nous avons été heureux de vous recevoir aujourd'hui à Canal Académie. Merci beaucoup.
Merci.